Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission de déconfinement par les livres, une émission ouverte comme la radio. Tous les invités se sont connectés au studio grâce à une application, libraire et chroniqueur compris, et Boris Paczynski est là derrière la console pour rassembler tout ça. Merci à lui. On reprend les bonnes habitudes en commençant par la première phrase d'un roman culte. Aujourd'hui, allez, j'en ai parlé tout à l'heure chez Sophie, c'est un bon moyen pour s'évader. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Il commence par ces mots. C'était un vieil homme qui pêchait seul sur une barque dans le Gulf Stream et en 84 jours, il n'avait pas attrapé un seul poisson. Le vieil homme, c'est Santiago et il va bientôt prendre un énorme poisson au bout de sa ligne. Toute la difficulté, ça va être de le ramener. Un roman court, à peine 100 pages, mais un chef-d'œuvre à relire. Tout à l'heure, les libraires de l'émission nous rejoindront, mais oui, il n'y a pas de raison, par ligne, évidemment. Et puis nous visiterons la bibliothèque du chanteur Vincent Delerme. Il sera notamment question de recettes d'omelette nouilles, je ne vous en dis pas plus. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. Invité exceptionnel aujourd'hui, le plus indiqué pour parler science-fiction. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Il y a des moments comme ça, on vit dans un roman. La réalité se met tout à coup à ressembler furieusement à de la fiction, en l'occurrence un roman de science-fiction. Un thème classique, la pandémie, le confinement, on pense au Fléau de Stephen King ou à Je suis une légende de l'écrivain Robert Matheson, adapté au cinéma, vous savez, avec Will Smith. Et toute la littérature de zombies, finalement, nous parle en fait des contaminations de masse. Pour en parler, j'ai invité l'écrivain star de la SF et de l'imaginaire à la française, l'auteur des Fourmis, mais aussi du Papillon des étoiles, qui résonne étrangement aujourd'hui, on va en parler. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Comment se passe le confinement pour vous? Racontez-nous un petit peu ce que vous faites.
Oh, vous savez, le métier d'écrivain est un métier d'ermite, alors ça change pas grand-chose. Le matin, je partais de 8h à midi et demi pour aller écrire au café. Ben là, je reste de 8h à midi et demi chez moi. Mais je fais toujours mes 4h30 d'écriture. C'est mon rituel et ça n'a pas changé.
Après le, vous avez mis en place ça il y a très très longtemps, je crois.
Oui, j'ai commencé à mettre cette discipline à l'âge de 16 ans parce que tout simplement j'avais lu une interview de Frédéric Dard dans lequel il disait que pour être écrivain il fallait travailler tous les jours de 8h à midi et demi. Je me suis dit bon ben c'est la recette, appliquons-la à la lettre.
Mais c'est un moment propice pour écrire ou alors il y a quand même une petite angoisse comme ça diffuse qui bloque un peu le processus?
Alors je vous avouerai, au début j'étais juste dans les corrections de mon prochain livre qui est le troisième volume des chats et il y avait quelque chose qui allait pas, je me sentais pas bien et je me suis dit je vais écrire une histoire spécifique dans un plan complet, un concept complet de roman au moment du confinement parce que ça sera ma thérapie sur cette époque-là. Donc j'ai commencé un roman il y a quelques jours. Et ce roman est complètement imprégné de cette ambiance-là, et je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en même temps, c'est la première fois où vraiment on vit une situation de science-fiction. Tout à l'heure, vous citiez Le Fléau de Stephen King, Je suis une légende de Matheson. C'est évident que là, nous sommes dans ces romans, et en même temps, nous ne savons pas combien de temps ça va durer, ce qui rajoute à l'angoisse. Donc je crois que c'est quand même un sentiment très romanesque, donc je me suis dit il faut que j'écrive une histoire vraiment liée spécifiquement à cet instant que je terminerai quand il y aura la fin du confinement.
Effectivement, ça vous inspire puisque vous avez même publié une nouvelle intitulée Homo Confinus. On la trouve gratuitement sur le site de Cultura. C'est quoi l'idée de cette nouvelle?
Déjà, j'avais la première phrase et ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines et c'était déjà il y a 3 ans. Donc à partir de là, une fois que j'avais mon incipit, après l'histoire, c'est que en fait, on a sous-estimé l'adversaire, on a cru que c'était une sorte de grippe, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, l'humanité, n'arrivant pas vraiment à résoudre ce problème, finit par s'adapter en cherchant une solution de confinement encore plus fort, à savoir en s'installant sous terre, sous l'épiderme de la planète. Et la nouvelle humanité qui naît, donc j'appelle Homo Confinus, c'est en fait une humanité qui vit comme des taupes dans des galeries de métro et dans des galeries de souterrains. Et l'humanité du coup, libère la surface qui peut à nouveau retrouver toute la vie sauvage qui existait, préexistait avant l'homme.
Ça ressemble à une fourmilière, votre affaire, quand même. Vous en sortez pas. C'est une fourmilière humaine, mais quand même.
Vous savez, les fourmis sont sur Terre depuis 120 millions d'années. Nous sommes sur Terre que depuis 3 millions d'années, tout au plus. Ça veut dire qu'elles ont quand même pris 117 millions d'années d'avance sur nous. Donc, regardons ce qu'elles ont fait. On aura peut-être une vision de notre futur. Oui, ça, je suis persuadé que regarder une espèce sociale qui crée des villes, qui sait faire la guerre, qui sait faire l'agriculture et qui est installée sur Terre depuis autant de temps est forcément une source de réflexion et de compréhension de notre avenir.
Évidemment, vous n'allez pas pouvoir nous le dire, mais vous nous disiez quand même que votre roman que vous êtes en train d'écrire, votre prochain ou un prochain roman en tout cas que vous êtes en train d'écrire, ça s'inspire du confinement. Est-ce qu'il y a un peu de cette nouvelle-là ou pas dedans ?
Non, pas du tout. Mais par contre, c'est lié un peu au concept de vision du futur. Pour tout vous dire, la suite de la boîte de Pandore. Donc la boîte de Pandore, c'est quelqu'un qui essaie de mieux comprendre le passé. Et là, cette suite, telle que je l'ai écrite, je ne sais pas si ça sera bien publié un jour, mais en tout cas, là, je l'écris tous les jours régulièrement. C'est le même personnage qui essaie de comprendre ce qui va être le futur. Il applique le système d'hypnose régressif de la même manière pour comprendre le passé que pour comprendre comment le monde pourra être dans l'avenir. Et je dois vous avouer qu'en même temps que j'écris le roman, je découvre des visions d'avenir qui sont enfouies en moi. Et c'est assez excitant, c'est assez étrange. Vous savez, par moments, j'écris des choses, je comprends pas pourquoi je les écris. Et c'est plus tard que je finis par comprendre. Donc là, j'ai ce sentiment de faire quelque chose de nouveau et de bizarre et d'incompréhensible. Et c'est très excitant.
Mais attendez, vous dites, je suis pas sûr qu'il sera publié. Mais c'est vous qui décidez quand même maintenant. Personne vous refuse jamais un manuscrit à vous quand même.
Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, j'écris deux romans par an. Il y en a un que je laisse tomber parce que je le trouve moins bon ou qui ressemble à un de mes livres précédents. Donc, chaque année, il y a un roman qui est écrit, j'allais dire pour rien, ou en tout cas qui est mis au congélateur. Donc, celui-ci, celui que j'écris actuellement en période de confinement, je suis pas sûr qu'il soit publié. Ou en tout cas, s'il est publié, je suis pas sûr qu'il soit publié de sitôt. Voilà, il y a un moment, j'écris les romans parce qu'ils ont envie de sortir, un peu comme des fœtus qui ont envie de vivre. Mais après, je n'ai pas la garantie que ces fœtus se mettent à avoir des carrières en dehors de moi. Donc, ça se peut qu'ils restent stockés comme ça. Je crois que je suis pas le seul écrivain, d'ailleurs, à faire des romans qui ne sont pas forcément publiés. C'est comme si le livre lui-même avait envie d'exister. Je ne servais que de support, que de moyen à lui permettre d'exister, mais je ne peux pas lui garantir d'être publié. Voilà.
Mais attendez, vous en faites quoi de tous ces manuscrits ? Vous les mettez dans une malle et un jour, peut-être, on retrouvera tous ces manuscrits qui n'ont jamais été publiés ?
En fait, ils sont dans mon disque dur. Mais alors, j'avais adoré un roman de Stephen King qui s'appelle Sac d'os, dans lequel il racontait la même chose, à savoir que c'était l'histoire d'un romancier qui écrit deux romans par an, et il y en a un qui est au congélateur et l'autre qui sort. Et après, quand il a un blocage, il n'arrive plus à écrire, donc il ressort tous ces romans qu'il considérait comme pas digne de sortir, et les gens s'aperçoivent que c'est ses meilleurs romans. Donc je me suis dit, je ne suis pas le seul à avoir une production supérieure à un roman par an. En France, il n'est pas possible de sortir deux romans par an, parce que sinon on a l'impression soit qu'ils sont bâclés, soit que il y a un nègre, soit qu'il y a un truc, il y a une tricherie quelconque. Donc pour ne pas gêner le public, j'en sors qu'un par an, mais en fait j'en écris deux, voire trois. C'est ma production. Ma production normale est de 10 feuillets par jour. Donc à partir de là, je peux arriver à produire assez facilement.
Mais vous finissez par les détruire ou alors vous les reprenez, vous les modifiez pour faire parfois un autre roman à partir de cette base-là ?
Alors c'est la deuxième case qu'il faut cocher, c'est-à-dire que je les détruis pas, je les garde et par moment, un peu plus tard, je m'aperçois qu'il y a une manière de les arranger qui pourrait faire un nouveau roman. C'est mon petit atelier d'écriture et c'est pas aussi simple que j'écris un roman, il est publié, je passe à un autre roman. Non, je fais des tas de petits travaux à côté et puis j'écris aussi beaucoup de nouvelles qui sont stockées, qui sont pas publiées parce qu'en France il y a pas de réel marché pour les nouvelles. Mon éditeur est pas très chaud pour les sortir, mais j'espère toujours sortir un recueil de nouvelles comme j'avais sorti L'Arbre des Possibles et Paradis sur mesure.
Ça, c'est vrai, c'est mon combat d'ailleurs, Bernard. Vous savez, les nouvelles en France, je ne comprends pas pourquoi on ne publie plus de nouvelles. On a eu un passé, quand même, une tradition de nouvellistes en France. C'est terminé, les éditeurs ont peur. C'est vrai que les gens achètent moins, mais peut-être que si les éditeurs en publiaient plus, les gens en achèteraient plus.
L'idée, c'est que les éditeurs pensent qu'une fois qu'on est attaché à un personnage, on n'arrive pas à redémarrer sur une autre petite histoire. C'est-à-dire, soit l'histoire a fonctionné, dans ce cas, on aime le personnage, on va le voir tenir plus longtemps, soit elle n'a pas fonctionné, et dans ce cas, la nouvelle n'a pas de raison d'exister. Alors moi, je considère que la nouvelle, c'est précisément l'endroit où l'écrivain montre son talent, puisqu'il faut, en un minimum de pages, arriver à poser une situation, faire monter une dramaturgie et trouver une fin surprenante. Donc, c'est l'art parfait de l'écrivain. Un écrivain qui n'est pas capable d'écrire des nouvelles, à mon avis, n'est pas un vrai professionnel. La nouvelle est la preuve qu'on sait faire quelque chose d'efficace et de tassé, de rapide. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de Matheson, qui est l'un de mes maîtres. Et pour moi, les nouvelles de Matheson sont vraiment des petits bijoux. Ils ont notamment servi à faire la série Twilight Zone et à faire différentes autres séries. Mais les grands novellistes sont pour moi les meilleurs écrivains, et notamment Philip K. Dick et aussi Stephen King, que vous citiez tout à l'heure.
Restez avec nous, Bernard Werber. On va essayer de trouver une fin surprenante, nous aussi. On vous retrouve dans un instant dans un vaisseau spatial confiné. À tout de suite.
Avec plaisir.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est libre avec notre invité Bernard Werber, chacun chez soi, mais ensemble dans le studio d'Europe 1 par la magie de la technologie et de Boris Paczynski, notre réalisateur. Bernard Werber, vous êtes toujours avec nous. Nous parlions juste avant la pause de votre nouvelle Homo Confinus, une histoire dans laquelle vous imaginez un confinement permanent. Justement, quel est l'intérêt de la science-fiction pour nous permettre d'appréhender la réalité, la dure et la vraie réalité ? Le réel.
La science-fiction, déjà, ça nous permet de visualiser un futur, qu'il soit dur ou qu'il soit pas dur, mais ça a la même fonction que le rêve. Le rêve, vous savez, on a des rêves qui servent d'exorcisme. Quand on a peur qu'il arrive quelque chose, on va rêver de cette chose et comme ça, on va se préparer à le vivre. Eh ben, la science-fiction a la même fonction. On a peur qu'il y ait une société totalitaire, on lit 1984 et on voit ce qui se passe. On a peur du clonage, on lit Le Meilleur des Mondes et on commence à vivre cette situation et à se préparer à comprendre tous les mécanismes du clonage. Donc la fonction de la science-fiction est de nous préparer à vivre le meilleur comme le pire, mais surtout le pire en général, puisque les romans de science-fiction qui marchent le mieux sont les romans catastrophes. Il y a peu de romans de science-fiction qui terminent avec et l'humanité vécue heureuse et complètement détendue.
Oui, mais ça nous aide à en prendre conscience, mais certainement pas à l'éviter. On est d'accord, la plupart des romans de science-fiction sont devenus vrais.
Oui. D'ailleurs, j'étais surpris de voir en Chine toutes les caméras et tous les systèmes de contrôle de reconnaissance faciale avec les amendes données automatiquement. C'était vraiment ce que décrivait George Orwell dans 1984. Il y a une fonction de prévision, il y a une fonction d'encouragement. Peut-être que s'il y a eu le premier voyage sur la Lune, c'est parce qu'il y a eu Jules Verne qui a écrit La Terre à la Lune. Il y a un moment où les auteurs de science-fiction ont une responsabilité dans ce qui arrive en bien ou en pas bien. Et c'est en ça que ils occupent la place de visionnaires, parce que maintenant ni les religieux, ni les politiques, ni les philosophes, ni les économistes n'osent parler du futur. Donc il faut bien que quelqu'un en parle et que quelqu'un avertisse le monde des dangers ou des bonnes choses à faire pour le futur.
C'est quoi le livre que vous relisez et que vous conseillez éventuellement en ce moment pour appréhender cette réalité, ce présent ?
Ah ! Alors, moi, j'ai toujours mes grands classiques, mes fondations, et le livre qui permet en tout cas de comprendre que le monde avance par cycle et par crise, et qu'il faut pas avoir peur de ces crises, et que le pire, c'est quand ces crises n'arrivent pas. Et moi, ce que j'ai compris dans Fondation, d'Isaac Asimov...
C'est un grand roman d'Asimov qu'il faut nous rappeler l'histoire un peu.
Oui, c'est un homme qui se dit que vu le nombre d'habitants de l'humanité, on peut arriver à tirer des lois de probabilité sur ce qui va arriver dans le futur, tout simplement parce que le monde évolue par cycle, cycle économique, cycle financier, cycle guerrier, cycle politique, et que ces choses-là, on pourrait les mettre en équation. Et donc cet homme va établir le futur qu'il prévoit qui va se produire pour l'humanité, un peu comme Nostradamus, mais un Nostradamus scientifique et non plus un Nostradamus mystique. Et mais il se dit que si jamais il avertit l'humanité de tout ce qui va arriver, ça ne va pas arriver. Donc il prévoit un système comme une horloge qui se déclenche chaque fois qu'il y a une crise et qui dit, si mes calculs sont bons, vous avez dû avoir une crise économique ou une crise financière ou une crise de santé ou biologique ou une crise militaire, et vous devez en être là. Un peu comme si dans un jeu d'échecs, si on avait prévu toutes les possibilités de scénario et qu'il y avait une sorte de super joueur qui avait dit, écoutez, si la partie se passe normalement, il devrait y avoir ça, ça, ça et ça. Donc c'est un hommage aussi précisément à la fonction de visionnaire des auteurs de science-fiction, à savoir que là, c'est une sorte de politicien qui est en même temps auteur de science-fiction et visionnaire, qui prévoit le futur, mais ce futur ne doit pas être dévoilé, sinon il ne se produit plus.
En plus, c'est un bon conseil parce qu'il y a 5 ou 6 tomes au moins, donc ça occupe Fondation, oui, d'Isaac Asimov.
Cinq volumes de Fondation, et après il y a Prélude à Fondation et encore avant Fondation. C'était le grand succès, c'est sorti après-guerre, donc ça doit être dans les années 50, mais tout ce qu'il raconte est d'actualité. Il prévoit l'intelligence artificielle, il parle déjà de, donc en 50, dans les années 50, il parle déjà de la conquête des nouvelles planètes, et il parle aussi de tous les remous économiques, militaires et politiques que nous connaissons.
Alors, l'un de vos romans à vous s'appelle Le Papillon des étoiles. Des dizaines de milliers de personnes confinées dans un vaisseau spatial qui fuit la Terre et qui essaye de recréer un monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire? Je trouve qu'elle prend une nouvelle dimension aujourd'hui. Ça résonne étrangement quand même.
Alors, c'est parti d'une phrase qui est, il y a un moment où le dernier espoir, c'est la fuite. Ça veut dire que j'imagine que dans le futur, rien ne s'arrange et qu'il y a un groupe d'humains qui décide, un peu comme l'Arche de Noé, de sauver ce qui peut être sauvable, à savoir de construire un vaisseau spatial pour aller coloniser une autre planète. Si ce n'est que ce vaisseau est immense, il fait 12 kilomètres de long, il contient 54 000 personnes. Et le voyage va durer 1800 ans, donc c'est pas ceux qui vont partir qui vont être ceux qui vont arriver. L'humanité est censée se reproduire à travers ce gigantesque vaisseau, qui a une particularité, c'est qu'il est propulsé par la lumière, donc il n'y a pas de carburant ou à l'intérieur du vaisseau, mais ce sont la lumière des étoiles, et c'est une technologie qui existe réellement, qui permet les photons, qui permet de faire avancer les voiles, et les voiles sont tellement immenses qu'elles ont la taille de l'Australie à peu près, donc c'est-à-dire c'est vraiment un grand voilier, un immense voilier, qui va propulser 144 000 personnes de notre planète sur une autre planète, dans un autre système solaire. Et j'ai écrit ce roman comme une sorte de réponse à la crise écologique, à savoir depuis le temps qu'on dit que notre planète est épuisée et qu'elle ne peut plus gérer autant d'humanité, il faut continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est quand ça va pas, il faut partir, essayer de recommencer ailleurs en mieux.
On n'en est quand même pas encore là non plus, mais ça n'empêche pas de relire le très bon roman Le Papillon des étoiles.
Merci. Mais vous savez, à la vitesse où notre planète s'abîme, a priori, on va avoir réchauffement climatique, plus disparition des forêts, plus, je crois que Tchernobyl, ça va pas bien. Donc, il y a quand même, ça serait bien qu'on ait une petite sortie de secours, de se dire, en imaginant que le pire des scénarios, qu'on ait un moyen de partir ailleurs, partir recoloniser une planète. Vous savez, c'est comme ça qu'on a avancé. L'humanité est née en Afrique de l'Est, et c'est parce qu'il y a dû y avoir des famines ou qu'il y a dû y avoir des situations difficiles à vivre, qui sont partis, qui ont colonisé tout le reste de la planète. Maintenant, le problème, c'est que notre planète actuellement n'est pas extensible, donc il faut trouver un autre espace de reproduction de l'humanité. Et ça, a priori, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'investissement et de technologie.
Ce sera ça où les animaux prendront le pouvoir, comme dans votre dernier roman, dont je rappelle le titre, Sa Majesté des Chats, séchés. Albin Michel, et puis donc votre nouvelle est disponible gratuitement sur le site de Cultura, elle s'appelle Homo Confinus. Merci beaucoup Bernard Werber.
Merci à vous, et au plaisir de sortir du confinement et de comprendre encore mieux le monde tel qu'il est et tel qu'il va devenir.
En studio cette fois. Dans un instant, La Voix est Libre continue avec un roman culte, mais dans un tout autre style, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. À tout de suite.
La Voix est Libre,
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure de se pencher sur un roman qui a marqué l'histoire de la littérature comme chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi Les quatre filles du Dr. March. C'est un monument de la littérature américaine, un mythe, immense classique. Le titre en anglais, c'est Little Women. Au passage, publié en 1868, maintenant question piège, qui est l'auteur? Eh bien, c'est Louisa May Alcott. C'est assez dingue, personne ne connaît l'auteur des quatre filles du Dr. March. L'œuvre a complètement effacé Louisa May Alcott alors qu'elle a été publiée en France chez le même éditeur que Jules Verne, c'est fou. Peut-être aussi parce que c'est son seul succès, grand succès, je ne sais pas. L'histoire, je vous rappelle, nous sommes aux États-Unis dans le Massachusetts. C'est la guerre de sécession. Le docteur March a été mobilisé par l'armée du Nord et ses quatre filles et leur mère restent donc à la maison. Quatre filles avec chacun un caractère différent. C'est sans doute l'une des raisons du succès du livre. Chacun peut s'y reconnaître, même si la plupart des filles veulent être Jo, en général la cadette, la plus aventurière, la plus libre. Il y a Meg aussi, l'aînée, 16 ans, elle est la plus raisonnable, puis Bess, douce et gentille, et Amy, 12 ans. La dernière, c'est la reloue, orgueilleuse, capricieuse. On les observe évoluer, on suit leurs péripéties quotidiennes et amoureuses. Écoutez le tout début, lu par Françoise Gillard.
Il n'y a pas de cadeau à Noël, grommela Jo étendue sur le tapis. Noël n'est pas Noël, voilà ce que je dis. « Oui, » dit Meg, en considérant d'un œil critique sa vieille robe encore très métable. « C'est surtout à Noël qu'il est triste d'être pauvre. » Et de penser que certaines filles reçoivent plein de choses et d'autres rien du tout, appuya la petite amie avec conviction. « Pourtant, » dit la raisonnable bête avec un sourire contrit, « nous devons penser qu'il y a bien plus malheureux que nous. Nous, au moins, nous avons nos parents, même si papa n'est pas avec nous. » « Oui, » dit Jo avec une moue, « et avec cette année guerre, il risque de ne pas être avec nous de longtemps. » Les quatre sœurs soupirèrent. Chacune avait pensé à part elle, et peut-être plus jamais. Mais aucune ne dit mot. Il ne fallait pas évoquer les risques terribles que couraient les combattants de cette affreuse guerre civile qui mettait aux prises le nord et le sud des États-Unis en cette année 1861, la guerre de sécession. « Eh bien, » dit Meg, l'aînée, « maman pense que nous devrions renoncer à nos cadeaux de Noël et en donner l'argent aux pauvres, voilà. » Même si nous n'avons pas grand-chose, elle pense que l'on peut toujours faire des petits sacrifices. Elle a sûrement raison, mais il faut avouer que, pour moi, du moins, ce sacrifice n'a rien d'agréable. En disant cela, la jolie Meg voyait défiler devant ses yeux tous les merveilleux vêtements qu'elle eût aimé posséder. Mais ses sœurs s'étaient mises à parler à qui mieux mieux, décrivant avec enthousiasme tout ce qu'elles auraient voulu acheter avec leur économie. Économie qui pouvait bien se monter à 1 $ pour chacune. « Mais un instant !» s'écria soudain l'impétueuse Jo. « De quel cadeau Noël parle maman ? Elle n'a pas parlé de nos économies personnelles et je suis sûre qu'elle n'y a même pas pensé. Nous pouvons très bien acheter ce que nous voulons avec. Nous l'avons bien gagné avec tout ce que nous faisons pendant l'année. »« Il est vrai, » dit Meg avec mélancolie, « que cela n'a rien de drôle de garder à longueur de semaine des enfants égoïstes et insupportables. »« Et moi, » fit Jo avec dépit, « crois-tu que je m'amuse à rester enfermée des heures et des heures avec une vieille tante capricieuse et acariâtre ? La rage me prend parfois à tel point que je me jetterais bien par la fenêtre pour lui apprendre. »« Vous, au moins, vous sortez, » soupira Bette. « Mais moi, je reste ici à ranger et à faire la vaisselle. Si vous croyez que c'est gai, la vaisselle de 6 personnes 3 fois par jour, j'ai les doigts tellement engourdis par l'eau que je n'ai plus le courage de jouer du piano. »« Eh bien, vrai ?» s'exclama la petite amie d'un ton indigné. En somme, il n'y a que moi qui m'amuse. Moi qui vais tous les jours à l'école, où d'horribles camarades vous insultent parce que votre père est pauvre, se moquent de vos vêtements et rient parce que vous avez un nez affreux. Je sais bien qu'il n'est pas beau mon nez. Est-ce de ma faute à moi ? Eh oui, ma pauvre petite amie, soupira Meg. Chacun ses soucis. Ce serait peut-être différent si papa n'avait pas perdu sa fortune. Et pourtant, l'autre jour, tu nous disais que nous étions plus heureuses que les enfants des King, qui n'arrêtent pas de se disputer toute la sainte journée en jetant l'argent par les fenêtres. Bien sûr, bête. Et je le dis encore. Au moins, nous, en dehors de notre travail, nous nous aimons bien. Et comme dirait Jo, on rigole bien ensemble. Ne dis pas cela, fit Amy avec autorité. Jo utilise toujours des expressions affreusement vulgaires. En entendant cela, Joe, qui s'était couché de tout son long sur le tapis et battait des pieds en mesure, se redressa d'un bond et les deux mains dans les poches, se mit à aller et venir en sifflant d'un air méprisant. « Tu vois !» s'écria Amy. « Tu vois ! Maintenant, elle siffle comme un garçon !»« Et alors ?» dit la petite Amy d'un ton plein de dignité. « Je n'aime pas les filles mal élevées. » « Et moi, » dit Joe en pivotant sur un talon, « j'ai horreur des gamines possesseuses. » Beth, qui arrangeait toujours les choses, allait parler quand Meg la devança. À 16 ans, l'aînée des sœurs March se croyait volontiers en droit de prendre un ton de grande personne. « Vous avez tort, toutes les deux, » dit-elle. « Toi, Joséphine, parce qu'à ton âge, il serait temps de renoncer à tes façons de poulain fougueux. Et maintenant que tu as un chignon et non plus des nattes, tu pourrais penser quelquefois que tu es une jeune fille. » « Ah ben, tiens !» s'écria Joe en arrachant la résille et retenant ses cheveux. « S'il n'y a que cela, je porterai des nattes jusqu'à 20 ans passés. Je n'ai aucune envie de me promener raide comme un piquet, ni que l'on m'appelle Mademoiselle Marge, gros comme le bras. C'est déjà bien suffisant d'être une fille alors que l'on n'aime que les sports et les jeux des garçons. Ah là là, si au moins je pouvais être à l'armée et me battre à côté de papa. Mais voilà, il faut que je reste ici à tricoter comme une petite vieille. » En disant cela, elle contemplait d'un air piteux la chaussette de grosse laine qu'elle terminait et qui devait, avec sa collègue, prendre le chemin des envois aux soldats. « Allons, ma pauvre Joe, » dit Meg d'un ton maternel. « Accepte-toi comme tu es et sois contente de t'être dénichée un diminutif de garçon pour ton prénom. « Quant à toi, ami, » poursuivit Meg, « je sais qu'à ton âge, tes manières affectées sont amusantes, mais tu grandis vite. » Et dans quelques années, en continuant sur cette voie, tu ne seras qu'une affreuse petite mijaurée. C'est une bonne idée de ne pas utiliser l'argot comme Joe, mais si tu persistes à employer de grands mots que tu ne comprends pas pour faire distinguer, tu deviendras tout simplement ridicule. Allons bon, dit Beth en souriant, tandis qu'Amy, piquée, se détournait vers le mur. Si Amy est une mijaurée et Joe un garçon manqué, que suis-je donc, moi ? Toi ? Dit Meg en l'embrassant. Tu es notre petite chérie, voilà. Et cette fois, les trois autres sœurs étaient d'accord.
Les quatre filles du Dr March à relire ou à écouter. On se déconfine un peu dans un instant pour visiter la bibliothèque du chanteur Vincent Delerme avec notamment la recette de l'omelette aux nouilles. Ça vaut le coup de rester. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, on va prendre l'air un peu, tiens, avec une attestation, puisque nous avons visité cette bibliothèque avant, bien avant le confinement. Nous partons donc chez le chanteur Vincent Delerme. Bonjour Vincent Delerme.
Bonjour.
Bon, on est chez vous, là, ça ressemble à une de vos chansons, en fait. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a des cassettes, il y a un pick-up. Il y a un piano, évidemment. Là, on est dans votre salon. Il y a une table basse blanche en bois, un peu passée ou faussement vieillie.
Non, c'est une vraie vieillie. C'est un vrai vieilli.
D'accord. Un grand canapé.
Les gens vont croire que c'est très vieux
la
chez moi.
Faites attention ouverte. à ce que vous dites. Parce que, alors bon, il faut dire, il y a quelques bibliothèques, mais les livres sont un peu partout. C'est pas tout rangé.
C'est vrai.
Et vous avez des cassettes, donc je disais, des cassettes audio.
Ouais.
Là, il y a les Beatles, il y a David Bowie. Mais vous avez le lecteur cassette qui va avec ou pas?
J'ai des lecteurs cassettes, ouais. En fait, c'est des trucs dont les lecteurs cassettes, tous ces appareils-là, même le truc pour les disques, c'est des trucs dont je me suis servi dans des spectacles, souvent. En fait, j'ai gardé beaucoup de choses.
Bon, alors, il y a quand même quelques livres, on est là pour ça. Alors là, c'est quoi, en fait? C'est pas de la littérature, ça, c'est plutôt des beaux livres.
Bah là, il y a beaucoup de photos, donc Malik Sidibé, Sedou Keïta, ça, c'est... C'est quand même beaucoup... Les livres de photos, c'est un truc qui prend beaucoup de place chez moi, parce que j'adore la photo. Il y a quelque chose de précis, un témoignage qui est très fidèle du moment et de l'intensité du moment. La photo qui est la plus grande chez moi, c'est une photo de Romy Schneider.
Romy Schneider, nue.
Ouais, on la voit, bah oui. Je crois qu'elle est nue entièrement, mais on voit que le haut.
Dans le salon, avec vos
enfants
et tout,
quoi. J'ai la partie basse, dans le grenier. Non, dans le salon, oui, mais justement, c'est pas du tout... je crois pas que ce soit très choquant. Et surtout, on sent vraiment l'instant.
C'est surtout
quoi.
Qu'elle fume, quoi.
C'est un soir... Ah oui, il y a ce... C'est pour moi typiquement photo, c'est-à-dire que... On se met à la place de la personne qui a pris la photo, il y a dans un coin vers le haut le briquet et son paquet de cigarettes, et puis on sent la soirée qui est en train de se faire avec elle. Et ça, c'est la vraie force des photos, c'est qu'on peut se mettre assez facilement à la place des gens qu'on photographie et sentir les instants ce qui est un truc que j'essaye beaucoup de faire en général, en chanson, dans mes spectacles et tout ça.
Vous arrivez à vous emparer de ces livres parfois et de vous poser un peu pour les regarder ou
oui, pas assez? Souvent le matin, quand je suis réveillé avant les autres, j'ai une petite tendance au réveil à 5h30 du matin. Donc c'est un bon moment parce qu'on est disponible. D'une manière générale, le matin, on est un peu comme nettoyé, comme il y a quelque chose qui est... On peut tout prendre un peu de front, on n'est pas perturbé par le fait d'avoir appris tel truc, qu'il faut faire telle chose et tout ça. Et c'est un moment où on est comme disponible, je trouve. Et voilà, c'est des moments où j'aime bien regarder ces bouquins.
Dans vos chansons, vous parlez beaucoup justement de photos. On voit des photos quand vous chantez. Est-ce que vous piochez aussi dans ces livres-là et vous le posez sur le pupitre à côté de la partition pour vous inspirer de la photo? Comment ça se passe?
Non, pas vraiment. À part sur la chanson justement qui s'appelle Martine Parr, que j'avais faite à un moment où j'étais bloqué, où je savais vraiment pas quoi dire, quoi écrire. C'était, j'avais fait 3 disques et puis je sais pas, j'avais un blocage. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais repartir vraiment d'un photographe et là faire une chanson qui a rien, enfin j'invente rien dans la chanson, je ne fais que décrire très précisément des photos, tout le texte de la chanson, c'est que ça.
Puisqu'on en parle, sur le piano, y a, c'est quoi? C'est des vinyles ou c'est des partitions ça?
Non, ça c'est des vinyles, mais qui sont très neutres, ouais, c'est juste avec juste de la typo, des aplats de couleurs.
Il a quelque chose de spécial ce piano ou pas?
C'est le piano droit le plus lourd du monde, c'est vrai, c'est pas une blague. Et c'est un gros Trian Steinweg. Ça marque Steinway, mais avant qu'ils émigrent aux États-Unis, c'est l'ancêtre du Steinway. D'accord. Le vrai. Ce qui permet
l'authentique.
Qu'il ait une pédale d'appartement, ce que n'ont pas les Steinway, qui permet de ne pas embêter les voisins. Sur les Steinway, maintenant, ils ne veulent pas mettre de pédale comme ça. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé cette partition. Vous l'aviez dit que c'était vous qui jouiez?
Je peux le dire, j'ai joué sur le piano de Vincent Delerme.
Ça doit faire quelque
chose. C'est assez classe. C'est le seul truc que je sais jouer.
Et c'est brillant.
Où sont les autres livres? Parce que là, il n'y a plus rien.
Là, il n'y a plus rien. Bah, attendez, bon, papa. Si, il y a des recettes, regardez.
Ah, il y a des livres de cuisine. On est dans la cuisine parce que c'est une cuisine ouverte.
99 omelettes originales.
99 omelettes originales.
Je savais que ça vous plairait, j'ai senti un peu.
Et ça date de quand, ça? Année 80?
76, dites donc, mon année de naissance.
Qu'est-ce qu'il y a comme type d'omelette?
Regardez. Omelette aux carottes, omelette aux pointes d'asperges.
Omelette aux nouilles.
Omelette aux nouilles. Alors donc, faites chauffer la sauce tomate, faites l'omelette à l'accoutumée, posez-la sur le gâteau de pâte et nappez avec la sauce tomate. Et il faut avoir fait un gâteau de pâte, préalablement. Qu'est-ce qu'une omelette? La question peut paraître inutile et pourtant, il y a de l'omelette bon nombre de définitions et nous avons tous entendu une fois au moins une querelle, à côté de laquelle celle des anciens et des modernes n'était rien, qui est celle de l'omelette baveuse, de l'omelette dorée.
Voilà. Vous en servez de ce livre?
Je ne sais pas s'il faut faire trop long là-dessus. Hein. Non, quand même,
non,
évidemment.
Pas la peine.
Je m'en sers, non.
Parce que depuis la cuisine, on voit votre chambre et je vois qu'il y a d'autres livres. Vous avez du Richard Brautigan, qui est un de mes auteurs préférés. Vous aimez Richard Brautigan?
Ben oui.
C'est un recueil de poèmes. Le baiser fantôme, par exemple, je le lis. Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu.
C'est chouette, ça.
C'est chouette, ouais. Ouais.
En fait, avec la poésie aussi, bon, Brautigan, c'est assez limpide. En général, on arrive à entrer dedans, mais j'aime bien la poésie en général. Même le côté, on comprend une phrase sur 8. Il en ressort quelque chose.
Je prendrai ta main qui me rappelle un chat que j'ai bien connu et nous irons marcher.
Bon, ben voilà. Du coup, c'est typiquement le genre de vers dont on fait un peu ce qu'on veut. Et on peut quand même pas mal mettre de soi là-dedans, alors que quand on lit un livre, bah, on est tenu quand même de suivre l'intrigue, on vous fait un peu marcher au pas de quelque chose. Avec la poésie, il y a un truc très ouvert et qui fait que chaque personne qui va lire ça, les gens qui vont entendre ça vont se dire « Tiens, est-ce que j'ai connu une fille qui avait une main qui ressemblait à un chat que j'ai connu ?»
Tiens, c'est oui, qui ça? Philippe Delerme.
Ah ben, il y a tout un rayon sur Philippe Delerme.
Donc c'est votre papa?
Plutôt dans cette zone-là, ouais.
Ils sont tous dédicacés?
Beaucoup. Mais non, ouais, c'est... Moi, j'ai toujours aimé l'écriture de mon père. Je me souviens de l'âge où finalement j'ai commencé à lire, qui était... où j'étais déjà adolescent, et j'ai lu quand j'avais 17-18 ans, j'ai lu des bouquins qu'il avait écrits 10 ans avant. Et ça m'a fait de l'effet, évidemment, parce que c'était des choses... C'est quelqu'un qui est aussi très... qui s'inscrit beaucoup dans une vraie vie, dans une absence d'imagination. Je dis ça de manière très positive, parce que j'ai la même chose. Souvent, je me suis recollé à des trucs que j'avais plus ou moins vécu, ou à des mélancolies que j'avais pu ressentir, ou à des moments très forts de la vie de mes parents.
Il y a la première gorgée de bière, bien sûr. Vous vous souvenez du succès de la première gorgée de bière?
C'était très marquant. Moi, je suis devenu une star à la fac de Rouen. J'étais le fils du mec qui a fait la première gorgée de bière. C'était ma grande expérience du vedettariat, en fait. Parce que, après, bizarrement, ça m'a fait moins d'effet de faire mon premier disque et que ça fonctionne un peu. Parce que ça, c'était fou, quoi.
Je vois Journal d'un homme heureux aussi, là. Journal d'un homme heureux que j'avais lu. Il est sorti il y a un an à peu près.
Oui.
Et c'est son journal des années 80. Et vous êtes beaucoup dedans.
D'une année, en fait, précise, ouais.
Il parle de vous, enfant, et de votre sensibilité. Ouais. Je ne lis pas la dédicace, hein, c'est personnel.
Merci.
Ça vous ennuie, ça, qu'on parle de vous, enfant, qu'on livre des choses? Parce que bon, vous étiez un enfant très sensible, d'après ce que j'ai compris en lisant
ouais,
le livre.
Je lui ai dit, quand il a fait le bouquin, je lui ai dit, putain, mais je pleure tout le temps dans ton livre. Mais en fait, ouais, en plus, lui, ça lui plaisait sûrement, parce que c'est lié à des moments, des formes d'intensité, encore, ça rejoint ce qu'on disait. En plus, moi, j'ai toujours... Il y a pas mal de fois où c'est des émotions, très, au contraire, très positives, mais qui font monter les larmes aux yeux. Après, c'est non, je me suis même pas posé la question, en fait, de savoir si c'était gênant ou s'il avait le droit ou pas. C'est son travail d'écrivain, et moi, j'ai fait partie de ça, et ça a été une chance immense pour moi, parce que, bizarrement, là, on parle de bibliothèque, justement, les livres, en général, ont toujours été très présents autour de moi, même si je suis assez peu lecteur. Je mets longtemps à finir un livre, je lis pas 12 000 livres par semaine, mais j'ai besoin physiquement qu'il y ait des livres autour de moi. Et puis j'ai sûrement ouais, une affection pour ça, pour la mise en page. Ça a toujours été un peu là, et comme un truc un peu mythique aussi. Et ça, c'est lié à cette vie-là, à cette enfance que j'ai eue avec eux. Et voilà, et en plus, il se trouve que j'ai aimé beaucoup d'autres choses que ceux qui m'ont proposé, que les choses qui m'ont proposé. Mais par contre, les trucs qu'ils m'ont proposé, ça n'a jamais été un souci pour moi. C'est des choses que j'aimais aussi. Juste, moi, j'aimais des trucs en plus, mais je ne me suis pas dit « Oh là là, je déteste, il faut absolument que je m'en aille de cette baraque. » Donc finalement, c'est assez rare. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais après coup, tout le monde m'a dit « Ah, c'est bizarre quand même, ne pas avoir fait de crise d'adolescence, il faudrait peut-être voir un psy. » Mais c'était comme ça, et tant mieux.
Merci beaucoup, Vincent Dolerme.
Bah, merci à toi.
Merci pour la visite. Retour en studio, merci à Fabien Duchesne pour la prise de son. Je vous conseille au passage le compte Instagram de Vincent Delerme qui poste des photos magnifiques. Dans un instant, on ouvre exceptionnellement les librairies. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue. Les libraires de l'émission, tout confinés soient-ils, sont quand même avec nous, chacun chez eux, derrière leur mur de roman. Ils ont tous appris à se servir de Reportit, l'application qui nous sert à nous connecter à la radio. Déjà ça, c'est émouvant. Avec nous aujourd'hui, Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris et Anne-Sophie Rouvelou de l'Infini Comédie, la célèbre, à Bourg-la-Reine. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Ça va, ça marche bien, vous m'entendez bien?
Oui, tout est parfait.
Vous êtes bien à l'abri derrière vos romans?
Oui, derrière nos piles.
Oui, oui, oui.
Derrière quel roman pour vous, Christophe Daniel, aujourd'hui?
Alors moi, aujourd'hui, je suis derrière un livre dont le titre résonne de manière un peu particulière par les temps qu'on vit. Le livre s'appelle « Dehors la tempête ». Et c'est un livre écrit par Clémentine Mélois, qui est un hommage à la lecture, à l'expérience de la lecture. Clémentine Mélois, elle est artiste plasticienne, elle est oulipienne, elle est écrivaine, enfin, c'est un véritable couteau suisse, et elle nous fait un livre drôle, sensible, joueur, autour de l'expérience de la lecture. C'est vraiment très réconfortant, très drôle, et alors on passe de Moby Dick au Seigneur des Anneaux, en passant par La Chocolaterie de Charlie, des récits d'aventures maritimes, à la météo marine, enfin c'est foisonnant. Il y a deux chapitres spécialement pour vous, Nicolas. Il y en a un qui s'appelle « Dans ma bibliothèque » et l'autre, le suivant s'appelle « Dans sa bibliothèque ». Voilà. Moi, je vous encourage vraiment à découvrir ce bouquin.
Ce sont des conseils de lecture, en fait.
Non, ce sont des chapitres qui vont... Alors, ça parle de l'enfance, ça parle de la mémoire, et c'est tout le rapport de Clémentine Mélois à la lecture et aux écrivains qui l'ont marqué, mais avec ce côté très ludique, très joueur que l'Oulipo affectionne.
Et qui donne envie de lire.
Ah, complètement, complètement. Là, moi, en le refermant, je me suis jeté sur le journal de Samuel Pépiz, qui paraît-il, on doit prononcer Samuel Pips, parce que le chapitre qui concerne ce journal, vous n'avez qu'une envie, en finissant le livre de Clémentine Mélois, c'est de vous jeter sur le journal de Samuel Pips.
Et Dehors la tempête, le titre est magnifique.
Ah oui, titre magnifique dans la belle collection chez Grasset, Le Courage, un nom de collection d'actualité, donc aux éditions Grasset.
Parfait, parfait. À vous Anne-Sophie Rouvoux, j'espère que vous avez un beau titre aussi. Hein.
Ouais, ça s'appelle « Disparaître dans la nature ». C'est plutôt beau ça.
Ça se rejoint.
Ouais. Alors l'auteur c'est Evan Ratliff, c'est paru aux éditions Marcelli, qui est une super maison d'édition. C'est un ouvrage de c'est un ouvrage de narrative non-fiction. Donc tu sais que c'est une sorte d'écriture en fait qui mêle journalisme et littérature. Et en fait, ça devrait intéresser tous ceux qui ont toujours rêvé de tout plaquer et de changer d'identité. Il y a deux histoires dedans, donc ça veut dire que l'ouvrage, déjà, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez l'attraper dans n'importe quel sens, à l'envers, à l'endroit, commencer par où vous voulez. Et la première histoire, qui s'appelle « Disparaître », ça raconte une chasse à l'homme. C'est-à-dire qu'en 2009, notre auteur, qui est un journaliste au magazine américain Wired, il fait paraître une annonce qui dit « Le journaliste Evan Ratliff est en cavale, trouvez-le et remportez 5 000 $ ». Donc tu imagines que tout le monde a décidé de lui courir après. Donc dedans, il nous raconte sa disparition, comment il s'est débarrassé de tout, de ses cartes de crédit, de son portable, de ses comptes sur Internet pour se volatiliser.
Et il l'a vraiment fait.
Il l'a vraiment fait et je ne vous dis pas la chute, hein, ça sera à vous de le voir. Mais c'est extrêmement amusant à lire parce que beaucoup de lecteurs du magazine sont pris au jeu. Il y avait des échanges enflammés sur Twitter pour le pister. Il y a un poursuivant qui était un as de l'informatique, donc il a essayé de démêler un petit peu toutes les adresses IP qu'il utilisait. Et pendant ce temps-là, le journaliste, il a parcouru les États-Unis de long en large avec une fausse identité. Il a travaillé dans un stand de nourriture à la Nouvelle-Orléans. Il n'a pas arrêté de changer de look. Et on a les photos dans le bouquin de ces changements de look. Et il fuyait comme ça d'une ville à l'autre dès que ça sentait le roussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il parle aussi de sa paranoïa qui va grandir au fil de la fuite. Et la difficulté de vivre sans identité et sans attache avec ses proches. Le second récit, donc, que vous pourrez lire en retournant l'ouvrage, ça s'appelle donc Dans la nature et c'est la disparition d'un père de famille toujours aux États-Unis. C'est une histoire vraie. Hein. Il a disparu en Arkansas et pour vous la faire très rapidement, en fait, ce père de famille-là, en fait, il se baladait avec le chien. Le chien, il est allé dans la rivière. Il a essayé d'aider le chien et il a disparu. Et tout le monde a cru qu'il était mort. Mais en fait, effectivement, vous en doutez, il s'est volatilisé et pour une très bonne raison que je vous laisserai découvrir, il a essayé de refaire un petit peu sa vie ailleurs. Donc c'est juste la réflexion en fait de la difficulté d'une disparition, surtout de nos jours, hein, parce qu'on est pisté de partout. Pensez à vos miles que vous êtes bien content d'avoir avec les compagnies aériennes, mais qui en profitent aussi pour vous pister et toutes les infos que vous donnez sur les sites marchands. Voilà, c'est quasiment impossible de disparaître à l'heure du numérique.
Ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup. Top. Et donc, Disparaître dans la nature chez Marcelli et Dehors la tempête, c'est chez Grasset. Ça, c'est le livre de Christophe Daniel. Et on rappelle, on attend la fin du confinement pour acheter ces livres chez les libraires. En attendant, on note sur un petit bout de papier qu'on colle sur le frigo tous les livres qu'on a envie d'acheter. Et puis, on lit la pile de romans qu'on n'a jamais eu le temps de lire jusqu'à maintenant. Voilà, merci beaucoup les libraires.
Merci
Nicolas.
On continue de flâner pour de faux dans les rayons des librairies, mais cette fois, on part pour le secteur jeunesse avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve les conseils littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez un album intitulé Attention, les cornichons, le loup et le poisson rouge de Nebin Dominguez et Hélène Malric.
Oui, c'est une histoire bien déjantée à lire à partir de 5-6 ans à vos enfants. Imaginez une famille de cornichons qui vit un peu serré dans son bocal. Un bocal assez spécial puisqu'il est posé sur une charrette tirée par un camion de glace conduit par un loup. Et toute la journée, le loup caramel se balade sur les routes de campagne pour servir des glaces. Coco la banane, Kiki la myrtille et Rikiki le kikinosaure se promènent par là, vous vous en doutez. Ils vont forcément en commander de ces glaces. Le loup s'affaire et les cornichons l'épaulent énormément parce que le loup est manchot, donc il ne peut pas tout faire. Coco la banane déguste sa glace aux paillettes de bonbons quand soudain, le fiston cornichon remarque un drôle de bocal sur le rebord d'une fenêtre.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce mystérieux bocal, Victor ?
C'est un certain poisson rouge nommé Qui sait tout. Dans son bocal, des centaines et des centaines de livres rangés méthodiquement sur des étagères. Il connaît un paquet de choses, ce Qui sait tout, mais il rêve par-dessus tout de manger une bonne glace. Et il est un peu triste car il ne peut pas. La suite, c'est Théa et Clémentine qui vous la lisent.
As-tu envie d'une glace ?
Propose Caramel qui s'était rapproché du bocal.
Oh oui, j'en rêve.
Mais c'est impossible.
Dit tristement qui sait tout.
Et pourquoi donc ?
La glace va fondre dans l'eau.
Alors, nous te sortirons.
Je ne peux pas respirer hors du bocal.
Alors nous t'arroserons.
Et je ne sais pas marcher.
Alors nous te porterons.
Il y a toujours une solution.
Conclut le loup. Et vous l'aurez compris, la famille Cornichon, le loup et les fruits vont tout faire pour aider le poisson rouge à manger sa glace. Un album qui évoque le thème de l'inclusion. Le loup, à qui il manque un bras, aide le poisson rouge. Tout le monde tend la main à son prochain. C'est juste, sans être trop nié, une histoire qui fait du bien, surtout en ce moment, en cette période de confinement où on peut se poser plein de questions. Et puis, il faut le dire, les cornichons, superbement illustrés par Hélène Malric, ressemblent à des petits cochons tout verts, trop craquants. Bref, foncez, vous allez adorer cette histoire.
Et on rappelle le titre de ce livre, donc Les Cornichons, le loup et le poisson rouge de Nébine Dominguez, illustré par Hélène Malric. C'est aux éditions Paja. Merci beaucoup, Victor.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Confiné, déconfiné, me reste à remercier Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, Xavier Joly pour la programmation musicale, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, qui jongle pas mal en ce moment avec les lignes et les connexions dans tous les sens. Merci à lui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres qui déconfinent. À la semaine prochaine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.